Salut, bonjour à tous et à toutes. De retour sur Détournement féministe, donc quatrième samedi du mois à 15h sur Radio Campus Tour 99.5 FM. Alors aujourd'hui, on est en présence de Tiffany de la radio de Détournement féministe, avec moi donc sur le plateau pour papoter et discuter de notre émission, Adèle et Fred à la technique et de Odile Montazo qu'on va vous présenter juste après. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui ? On avait envie d'en parler de façon générale, mais à la dernière manif pour le droit à l'avortement à Tours, on était vraiment peu nombreuses et on a un peu l'impression que ce droit, enfin la lutte pour ce droit, elle tombe un peu dans l'oubli. Et du coup, on s'est dit que ce serait quand même pas mal de reparler de la lutte pour le droit à l'avortement et de l'importance de ce droit pour les femmes. Et du coup, on s'est décidé de faire une émission sur cette question. Et puis très vite, on s'est dit en fait, une émission, ça va carrément pas suffire. Donc en fait, on va en faire deux et on va faire ça chronologiquement. Alors pourquoi parler de ça et pourquoi parler de la lutte en fait pour le droit à l'avortement? C'est parce que ça nous permet de parler d'une lutte de femmes en fait qui a été un succès, donc même si on verra qu'il faut nuancer un peu le succès de l'obtention de la loi Veil, et aussi parce que pour nous ça nous semble hyper important de faire une transmission des histoires des luttes, parce que tous ces droits ils ont été obtenus par le biais de luttes qu'il faut pas oublier, parce que les droits c'est pas immuable en fait et on peut les perdre assez facilement et c'est en cours dans certains pays concernant l'avortement. Et parler d'une histoire de lutte, ça nous permet aussi de faire écho à l'actualité en ce moment, avec la marche contre les violences sexuelles et sexistes de samedi dernier, qui a rassemblé quand même 49 000 femmes à Paris et 1000 femmes à Tours. Il y avait plein de copines qui y étaient, c'était top. Et voilà, c'est important de continuer à lutter. Et puis aussi encore, parce qu'on avait envie de parler de la situation à Tours, qui a été une des villes très actives dans la lutte pour l'obtention de la légalisation de l'avortement. Voilà, plein de raisons de faire cette émission, et plein de raisons de encore aujourd'hui parler de l'avortement, parce que quelques petits chiffres comme ça à retenir, il y a encore 47 000 femmes qui meurent chaque année d'avortements clandestins dans le monde, donc c'est vraiment conséquent. Et il y a 42% des femmes qui n'ont pas encore dans le monde d'accès libre à l'avortement en 2017. Donc voilà, on a une responsabilité de continuer cette lutte et de continuer à en parler. Et donc, pour en parler avec nous aujourd'hui, Odile Montazo, sage-femme militante, qui va participer avec nous à cette émission pour nous raconter un peu ce qu'elle a vécu et comment est-ce qu'elle a vécu la lutte dans les années 70 et après, tout au long de sa carrière. Et on va commencer l'émission avec, donc chronologiquement comme je vous le disais, en partant de la période pré-légalisation. Je passe donc la parole à Tiffany.
Bonjour à toutes. Oui, en effet, on voulait voir cette lutte sous un angle historique parce qu'il nous semble important de rappeler certaines dates. Et on va partir, on a choisi 1920 comme moment clé pour vous donner un peu le contexte à l'époque. Petit rappel, c'était il y a 100 ans, la femme à l'époque était considérée comme mineure toute sa vie et elle était sous l'autorité du père ou de son mari. Et à l'époque, il y avait la loi de 1920 qui interdisait la propagande anticonceptionnelle et l'avortement, sauf raison médicale. Du coup, là, on voit qu'il y a 100 ans, les femmes n'étaient pas libres de disposer de leur corps, n'étaient pas libres de choisir leur maternité ou non, et que leur sexualité était de fait forcément reproductive, vu qu'elles avaient très peu de moyens à leur disposition pour éviter d'avoir des enfants. Elles ont trouvé, parce que les femmes sont malines, intelligentes et déterminées, donc elles ont trouvé. Mais c'était assez compliqué et forcément, elles n'avaient pas toutes les mêmes possibilités de trouver ces solutions. Et je voulais vous citer Daniel Assoun, qui a travaillé l'histoire de la légalisation et de l'avortement et de la contraception en France, et qui rappelle que à l'époque, les mouvements natalistes sont pour l'ordre moral, sont sous-entendus pour une idéologie nationaliste, c'est-à-dire toujours plus de soldats, par l'idée de la protection de la race, la crainte de l'immigration, donc faut être plus nombreux, et par l'idée de paix sociale, c'est-à-dire plus les ouvriers ont d'enfants, moins ils revendiquent par crainte de perdre leur travail, argument qui rend forcément les patrons assez sensibles aux arguments natalistes. Et du coup, ça nous faisait écho aussi, ce que dit Daniel Assoun, au livre de Sylvia Federici, dont Adèle parlait sur une des émissions de la rentrée, sur le capitalisme patriarcal. C'est-à-dire que le corps des femmes est bien vu comme une machine reproductif pour le pays et pour le capitalisme. Et vous imaginez bien, à l'époque de 1920, bah, c'était la Première Guerre mondiale. Du coup, la maternité était un enjeu fort pour qu'on puisse produire des soldats pour pouvoir gagner ces guerres. Et du coup, voilà, c'est un peu sous cet angle-là qu'on veut commencer la temporalité. Pour après, bah, bien sûr, à ce moment-là, les femmes avortent. Les femmes ont plein de techniques pour avorter depuis de nombreuses années. Et du coup, c'est un peu là où les avortements clandestins existent. Et c'est aussi de ça dont on veut vous parler. Pas que la question de la loi est passée, mais aussi de toutes les pratiques qui ont eu lieu avant la loi, qu'elles soient des pratiques techniques ou des pratiques politiques ou militantes. Et du coup, il y avait de nombreux avortements clandestins. Mais il faut avoir bien en tête que les avortements clandestins étaient fortement réprimés. Puisqu'il y avait une répression forte de l'État, des institutions médico-religieuses, de la famille aussi, et que par exemple, pour un avortement pratiqué, la condamnation pouvait aller de 1 à 5 ans de prison, et pour avoir consenti à un avortement, on pouvait faire 6 mois à 2 ans de prison. Donc ça, c'est pour donner un petit peu le contexte de répression, avant qu'Odile puisse nous parler un petit peu plus de comment se passaient ces avortements clandestins et quelles conséquences ça avait pour les femmes. Voilà. Odile, je te laisse la parole.
Oui. Alors, les avortements clandestins, ils étaient nombreux, hein, puisque dans les années 70, on parle d'un million d'avortements clandestins en France et par an, à peu près 400 femmes qui meurent, sans compter à peu près 100 000 séquelles diverses et variées. C'est des chiffres bien inférieurs à ce que Jacques de Rogy, qui a été un journaliste regroupant des articles très importants sur ce qui est un vrai tabou, l'avortement clandestin. C'est un livre qui sort en 1956 et qui va vraiment être une vraie bombe et il va être publié, beaucoup circulé et influencé certaines personnes qui vont se mobiliser pour lutter contre pour la contraception et l'avortement. Alors, à la veille de cette loi Veil, moi je vais commencer des études de sage-femme. Il y a donc 800 000 avortements clandestins, à peu près 365 femmes qui meurent, on dit une par jour, d'avortements clandestins. Je commence ces études de sage-femme et donc durant ces études, en deuxième année, je vois deux femmes, une de mon âge, une autre un peu plus âgée, qui meurent parce qu'elles ont fait des auto-avortements, mais dans de mauvaises conditions évidemment, sans le matériel stérile. Une qui a malheureusement utilisé, comme beaucoup de femmes, des instruments utilitaires pour les femmes, c'est-à-dire trois aiguilles à tricoter qui ont perforé son utérus et ses intestins. Elle est donc morte d'hémorragie. Et une jeune femme qui a essayé de poser une sonde elle-même, c'est-à-dire un petit tuyau d'aquarium de poisson. Et donc, ce n'est pas stérile et elle va mourir de tétanos. J'ai donc 19 ans. C'est très impressionnant. Et c'est là que je comprends que toutes les femmes déterminées à ne pas garder une grossesse qui n'est pas acceptable à leurs yeux va aller jusqu'au bout pour pas garder cet embryon. Ça détermine un petit peu mon militantisme et mes prises de position qui vont augmenter avec le temps, avec le mouvement chronologique qui va mettre en place qui va marquer cette lutte pour dissocier enfin la sexualité de la procréation.
Ok. Est-ce qu'on voulait aussi appuyer sur les conditions d'avortement? C'est qu'il y a une forte inégalité sociale à ces avortements, notamment les plus riches, par exemple, ont les moyens d'aller avorter en Suisse et en Grande-Bretagne, dans des conditions, dans des cliniques qui les accueillent. Elles ont les moyens d'aller là-bas, d'être hébergées là-bas et d'avoir un cadre plus sécurisé et plus stérile, on pourrait dire, pour avoir la possibilité de se faire avorter. Et les femmes qui sont plus pauvres, elles qui ne peuvent pas se payer ce voyage-là ou qui ne peuvent pas partir, aussi parce que parfois elles ne peuvent pas quitter forcément leur foyer, Du coup, vont avoir recours à plein d'autres méthodes, dont tu parlais, l'auto-avortement par exemple, mais aussi vont faire appel et s'adresser à des faiseuses d'anges qui coûtent moins cher, mais qui ont aussi des conditions d'accueil moins bonnes. Et dans tous les cas, ces avortements-là coûtent déjà beaucoup trop cher pour ces femmes qui sont issues des classes populaires. Du coup, ça, c'est quelque chose qu'on voulait souligner parce que une des choses quand même qu'il ne faut pas oublier, c'est que les femmes de tout temps ont avorté et que il y avait quand même toute une hypocrisie autour de la question de l'avortement puisque les femmes des classes aisées se faisaient avorter par des médecins qui en plus parfois palpaient un petit billet, arrondissaient bien leur fin de mois avec ces avortements-là. Donc il y avait aussi une hypocrisie à tous les niveaux de gens qui s'enrichissaient à nouveau sur le corps des femmes. Donc voilà, c'était un petit point sur ça qui était important aussi. Puisqu'on va parfois généraliser, mais qu'il y a quand même des situations très spécifiques à ne pas oublier par rapport à ces questions-là.
Oui, d'ailleurs, Tiffany, c'est important ce que tu dis. Et il faut savoir, par exemple, que le SMIC en 1974 était de 970 francs, et ce qui fait 147 euros. C'était le SMIC mensuel pour 40 heures par semaine. Et la faiseuse d'onge demandait à peu près entre 800 et 1000 francs. Quant au médecin marron, il demandait plus. En Suisse, par exemple, l'avortement des couches aisées revenait à 3000 francs. Voilà, donc par rapport au... On voit bien par rapport au SMIC ce que ça pouvait représenter pour une femme des couches populaires. Elle n'avait pas le choix, en fait. Elle n'avait pas le choix.
Pour continuer, on a un peu regardé, on s'est demandé comment la résistance s'est mise en place. Il y avait la pratique, les femmes avortées, mais comment tout ça s'est réveillé pour se transformer en lutte. Il y a eu plusieurs choses. Déjà, moi je me suis rendu compte en me documentant que les médecins se sont mobilisés et ont commencé et les soignants ont commencé à se poser des questions du fait par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Odile, aussi du nombre de décès qui étaient devant eux. Que ce soit les étudiants ou des médecins, ils se sont dit qu'il fallait arrêter ça, qu'il y avait vraiment une cause de santé publique. Et c'était pas forcément un engagement particulièrement féministe ou de défense des droits des femmes qui s'est manifesté de leur côté. Ça le deviendra pour certains peut-être et sûrement, mais en tout cas il y avait aussi cette question de santé publique. Et puis certains aussi médecins étaient révoltés de voir le mépris et la maltraitance que vivaient les femmes au moment des curetages après qu'elles aient dû être hospitalisées. Ils étaient assez scandalisés des maltraitances que les femmes vivaient, et notamment à Grenoble, où on sait que ça a été un fief assez important de la résistance et de la lutte pour le droit à l'avortement. Il y avait le docteur Fabre, qui était un ancien résistant et médecin, qui a commencé à se poser toutes ces questions et à souhaiter se mobiliser, et par exemple, a rejoint la Maternité Heureuse, qui a été une association, je crois, qui s'est montée, une des premières vraiment à se visibiliser collectivement, qui a été une mobilisation de femmes intellectuelles, de femmes plutôt bourgeoises ou de femmes de médecins, pour donner information sur la contraception, sans activité pratique, sans prescription, mais plutôt être dans l'information sur la contraception, pour après, un petit peu plus tard, en 1958, donner naissance à un mouvement qu'on connaît bien aujourd'hui, qui s'appelle le mouvement français du planning familial, qui va continuer la promotion de la contraception et surtout qui va commencer à vouloir faire tomber les arguments moraux et politiques face à la question du droit à l'avortement, pour aussi commencer à toucher l'opinion publique pour qu'elle soit plus favorable à cette revendication. Et de là, petit à petit, il va y avoir des sections un petit peu différenciées dans les mouvements familiaux, où il va y avoir des centres de planification qui vont s'ouvrir, c'est-à-dire des lieux où il va y avoir prescription et vente de contraceptifs. Il y en aura à différents endroits en France, pas partout, mais à différents endroits en France. Grenoble en faisait partie, tout à l'heure j'en parlais. Voilà, donc pour redonner un peu une image de comment petit à petit les choses elles essayent de bouger, en rappelant qu'en 1959, il est toujours interdit de faire de la propagande contraceptionnelle et d'en prescrire. C'est pas clairement dit dans la loi, mais c'est quand même plutôt interdit. Et pour vous redonner le contexte, en 1965, quelques années après, les femmes peuvent enfin travailler sans l'autorisation de leur mari. Du coup, c'est pour montrer aussi le cheminement et l'emprisonnement que les femmes vivaient et la soumission à l'autorité d'un père ou d'un mari qui petit à petit commence à s'ouvrir, mais pour montrer aussi les moyens que les femmes n'avaient pas. On parlait des inégalités tout à l'heure financières, mais en fait, en plus, comme elles pouvaient pas travailler, du coup, elles avaient peu de liberté aussi dans leurs conditions matérielles. Du coup, c'est pas à négliger dans les difficultés et les obstacles qu'on a mis aux femmes pour qu'elles puissent s'approprier leur choix. Et en 67, il y a une loi assez importante qui va passer, qui va être un premier élément déclencheur, qui est la loi Neuwirth, d'un député qui est passé et qui va permettre de libéraliser la contraception. Mais elle sera toujours non remboursée et elle sera libéralisée pour les personnes de plus de 21 ans. Du coup, c'est une première victoire, mais qui va quand même mettre beaucoup, beaucoup de temps à être appliquée, puisque les décrets d'application vont mettre plus d'une année à sortir et seront vraiment prêts à être sortis fin 1968, alors que la loi est passée en 1967. Et en plus, tout va être fait pour que ce soit empêché, pour que ce soit pas mis en œuvre. C'est-à-dire, la loi existe, mais la mise en œuvre est vraiment très compliquée. Et Neuwirth lui-même dira que sa loi a été sabotée, c'est ce que nous disait Odile tout à l'heure, et que dans la réalité, très peu de personnes pourront avoir accès vraiment dans les premières années à la contraception. Et puis, à nouveau, on peut voir que l'inégalité sociale et financière, elle joue, puisqu'elle n'est pas remboursée. Donc, c'est-à-dire que forcément, c'est encore les classes les plus aisées qui auront sûrement la possibilité d'avoir accès à cette contraception par rapport aux classes populaires. Voilà un peu sur ça. Tu veux confirmer quelque chose, compléter quelque chose sur Neuwirth, Odile?
C'est un personnage très important que l'on a oublié. Et c'est un jeune député. Et dès 1958, il s'est rapproché de la maternité heureuse et faire un énorme travail auprès des responsables politiques. Et il va même rencontrer personnellement le général de Gaulle pour faire avancer son projet. Et après, ça sera moins qu'il lui avait donné son accord. Et après, ça sera très compliqué, mais ça sera une victoire. Effectivement, je voulais dire que les décrets d'application, en fait, sont arrivés qu'en 1972. Et dans les services de maternité, où on voulait faire de la propagande contraceptive, il y avait une certaine opposition dans certaines maternités. Et c'était presque un engagement très militant ou alors un contrat d'exercice qui pouvait prendre fin. Sur cette base-là. Non, c'est tout. C'est un personnage dont il faudrait reparler. Son travail va se poursuivre jusqu'à la loi Veil, dans les coulisses. Merci.
Donc là, on arrive en 68, mouvement social, beaucoup de revendications sur le droit à l'avortement commencent à arriver, à monter. Mais en parallèle, il y a les mouvements sociaux des ouvriers et des étudiants. Et du coup, dans ces mouvements sociaux, les groupes femmes se montent petit à petit. Et là, les femmes entre elles, du coup des groupes non mixtes, commencent à parler, à échanger et à se rendre compte que leur condition de femme n'est pas un problème personnel, n'est pas une situation individuelle vécue, mais bien une oppression. Et elles constatent que c'est une oppression commune. Du coup, ces espaces-là seront de gros moments de prise de conscience individuelle et collective que le patriarcat est bien présent, qu'il traverse aussi bien l'État, l'Église et leur mari, et que là, en étant collective, elles se rendent compte qu'il y a peut-être des moyens pour agir, et là, elles vont commencer à avoir des revendications politiques qui vont s'ajouter aux préoccupations sanitaires du mouvement familial. Du mouvement français du planning familial, pardon, excusez-moi. Et du coup, ces revendications vont être plutôt le droit de chaque femme à disposer de son corps et à n'avoir de maternité et de rapport sexuel que désiré et choisi. Donc là, on voit qu'il y a une revendication qui est même plus large que la question du droit à l'avortement, mais bien de l'appropriation de ses choix et de l'appropriation de son corps pour avoir, sur la question de la sexualité, des choses choisies et non subies et plus forcément une sexualité reproductive. Et du coup, ça va s'amplifier aussi dans les collectifs militants, puisque on sait que ces collectifs-là vont aussi... Il va y avoir des femmes, mais il va y avoir aussi les collectifs lesbiennes qui vont se... Comment dire soutenir les mouvements des femmes pour revendiquer ces questions-là. Et certaines même auront des propos beaucoup plus radicaux sur les questions de maternité et de conjugalité, sur les questions du droit à l'avortement. Pour la suite, on va se dire qu'en 1970, il y a la création du MLF, du Mouvement de Libération des Femmes, qui va commencer à faire descendre les revendications sur le droit à l'avortement, qui va descendre dans la rue. C'est-à-dire que ça ne va plus être dans des discussions de femmes, mais qui va essayer d'amener cette lutte-là dans la rue pour, bah, on le disait tout à l'heure, que l'opinion publique soit de plus en plus mobilisée et questionnée par rapport à cette question-là. Donc voilà un peu sur... jusqu'à 70, où est-ce qu'on en était. Et juste, je voulais vous lire un petit passage sur justement les revendications politiques qu'il y avait à l'époque, où on a pu voir que les féministes hétérosexuelles et lesbiennes ont su s'unir sur les questions de libération sexuelle, où elles ont fait partie de plusieurs groupes communs et elles pouvaient écrire « En luttant contre les viols conjugaux ou non, contre les interdits de contraception et contre les préjugés sexistes, elles revendiquent le droit pour les femmes d'avoir du plaisir sexuel ainsi que celui de dissocier maternité et sexualité ». Et du coup, voilà, elles travailleront à plusieurs reprises, elles seront aussi en opposition, mais elles travailleront aussi ensemble pour pouvoir mener des combats communs. Et du coup, on va faire une petite pause musicale.
Ouais, donc on va vous passer un morceau qui s'appelle « Mi vida, mi cuerpo y mi disecciones ». Et donc un morceau de hip-hop féminin de Oaxaca. Au Mexique, et bon, c'est un des rares groupes hip-hop féminins, enfin c'est le groupe féminin. Elles sont plus ensemble maintenant, elles sont trois, et donc là on écoute Mare Advertencia Lyrica. Voilà, alors, parti.
Hey, ser mujer es una bendición. O al menos eso fue lo que nos contaron. Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones. Ya basta que pretendan controlar mis acciones. No es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios. Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones. Ya basta que pretendan controlar mis acciones. No es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios. Estás muy lejos de saber lo que significa ser el dolor y la fuerza de una mujer. Así que no pretendas que me comprendes. Si jamás has sangrado, no me mientas que lo entiendes. Es entre dientes tu inclusión y tu equidad. Es solo un lindo discurso y ya sé hasta qué dirás. La importancia de la mujer para la sociedad. Pero de nueva cuenta solo en palabras quedará. Hacia el pasado y han sido muchas las muertas por abortos clandestinos y a pesar de las protestas. Es grande tu ego y más grande tu ignorancia. Tu herramienta contra mí es la violencia. Ya basta de eso, ya basta de esa farsa. Así seré yo a quien reprimas de nueva cuenta. Tú solo niegas que existe un problema real, porque es más fácil ocultar y callar. Por un aborto legal y gratuito, porque no se criminalicen nuestros actos. Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones. Ya basta que pretendan controlar mis acciones. No es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios. Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones. Ya basta que pretendan controlar mis acciones. No es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios. Estoy decidida a no dejarme de tus leyes. Reprimes mi derecho y legalizas mi muerte. De cuando acá tú sabes lo que me conviene. Y de cuando acá a decidir por mi derecho tienes. Derecho a la vida, sí, pero una vida digna. Dime si es digno cuando controlas y me humillas. Como siempre, todo es cuestión de perspectiva. ¿Pero de quién? Claro, no de la mía. No quiero más condescendencia de burócratas. Es mi derecho, no estoy pidiendo limosna. Debe ser también una garantía individual. Quiero despenalización, quiero reformas. Mi paciencia se agota y el mar casi se seca. Pues llevo siglos esperando tu respuesta ante un sistema patriarcal que poco se presta. Pero entiende, somos mujeres, la decisión es nuestra.
Vous êtes bien sur Radio Campus Tour 99.5 et vous êtes avec Détournement Féministe, qui aujourd'hui vous parle des luttes autour du droit à l'avortement. Pour reprendre cette petite chronologie, on était dans les années 70 avant cette petite pause musicale, et on voulait vous parler aussi, là on parlait beaucoup de ce qui s'était passé en France, parce que c'est ce qu'on voulait regarder avec Audrey, et même tout à l'heure on regardera un peu plus ce qui s'est passé à Tours. Ça nous paraissait important de transmettre l'histoire tourangelle aussi, puisque Tours a été une des villes assez activistes sur la question des avortements clandestins et des droits des femmes. Mais aussi, là, on voulait vous parler de ce qui se passait à La Réunion, parce que à l'époque, les féministes ont oublié ce qui se passait à La Réunion dans les années 70, parce que en 1969, à La Réunion, en fait, Françoise Vergès écrit un livre là-dessus qui s'appelle « Le ventre des femmes, capitalisme, racialisation et féminisme ». Nous raconte comment, au sein d'un centre médico-chirurgical à Saint-Benoît, des centaines, voire des milliers de femmes des classes populaires se sont faites avorter de force et stériliser en même temps. Ces femmes-là venaient pour un problème lié ou pas à leur grossesse et elles se faisaient hospitaliser, elles repartaient, elles n'avaient plus de grossesse et en plus on leur avait ligaturé les trompes. Bien sûr, sans consentement, voilà, et ça a fait la une de pas mal de journaux, ça a quand même été assez médiatisé, on ne peut pas dire qu'en France métropole on n'entendait pas et on ne savait pas, il y avait de l'information qui circulait, ça a été dénoncé, puisqu'en plus ces médecins-là se faisaient rembourser les actes médicaux grâce à l'aide médicale gratuite à l'époque, dont les classes populaires et les pauvres bénéficiaient. Du coup, les médecins s'enrichissaient sur le corps des femmes à nouveau, et étaient plutôt, certains diront, à leur procès, parce que 30 femmes ont porté plainte et se sont portées partie civile. Et en 71, il y a eu leur procès et plusieurs médecins ont été accusés. Mais il y a eu très peu de condamnations, en fait. Il y a eu un médecin qui a été condamné et un infirmier. Tous les deux n'étaient pas d'origine française. Tous les deux étaient des racisés et pas des blancs. Et tous les autres médecins blancs, eux, ont été acquittés. Personne n'a été poursuivi. Et ces femmes n'ont jamais eu gain de cause dans ce qu'on avait fait sur leur corps. Et du coup, plusieurs fois pendant le procès ou même avant le procès, les hommes témoigneront comment le climat étatique les autorisait et les légitimait dans ces abus de pouvoir, hein, puisque pour eux, a priori, c'était bon pour le pays que ces femmes n'aient pas trop d'enfants. Et du coup, ils se sentaient légitimés dans ces actes-là. Et c'est pour ça que ça a pu prendre ces mesures, enfin ces proportions-là, parce que c'est des milliers de personnes, quoi. C'est voilà. Donc on avait quand même envie de rappeler ce réseau, enfin ce qui s'est passé avec ce réseau colonial fort à La Réunion, hein, puisque ça a été possible aussi parce que la justice, la police, les médias et les classes possédantes étaient quand même tous assez liés autour de tout ça pour que ces femmes se fassent mutiler, agresser de cette manière-là. Voilà, donc on voulait pas que ça tombe dans l'oubli. Parce que en parallèle, en France à l'époque, on cherche à obtenir le droit à l'avortement pendant qu'en parallèle à La Réunion, des femmes se font avorter et stériliser de force. Du coup, ça nous semble important d'en parler aussi dans cette histoire-là sur le corps des femmes et sur cette question que le corps des femmes sert la machine reproductive du capitalisme ou pas quand on trouve qu'il y en a trop, quoi. Du coup, en 71, le mouvement s'amplifie en France et la lutte prend forme. Déjà, il y a un premier acte assez important, c'est le manifeste des 343 femmes avortées qui sont des femmes connues et médiatisées qui vont déclarer, reconnaître qu'elles se sont faites avorter. Ça va déclencher une forte mobilisation et du coup va y avoir plein d'autres choses qui se passent en même temps, en parallèle ou après, qui vont aussi faire force et qui vont permettre ce rapport de force qui va se créer. C'est-à-dire, il y aura une marche internationale pour le droit à l'avortement, avec une première manifestation à Paris qui rassemblera de nombreuses femmes. Et il y aura aussi, en 72, un procès qui est assez connu, qui s'appelle le procès de Bobigny, qui était le procès d'une mineure qui avait été avortée. Et grâce au soutien du MLF et du MLA, ainsi que de l'association Choisir, ce procès a été gagné. Et Choisir est une association qu'on souhaitait mettre aussi en lumière, ce qui a été créé par Gisèle Halimi, Simone de Beauvoir et Christiane Rochefort, et qui a été aussi assez forte pour se mobiliser, elle, contre la suppression de la loi de 1920, et aussi pour défendre gratuitement les inculpés pour le délit à l'avortement. Et bien sûr, elle faisait de l'info à la contraception, à l'éducation sexuelle, mais leur terrain était surtout la question de la légalisation et aussi tout le volet défendre les personnes qui étaient inculpées pour le délit d'avortement. Du coup, Gisèle Halimi, qui est avocate, défendra plusieurs personnes, dont cette jeune femme à Bobigny, et d'autres personnes, et notamment, elle soutiendra une infirmière en Touraine qui, du coup, aura été accusée de complicité d'avortement, car elle avait fourni une sonde. Et du coup, c'est aussi au moment du procès de cette infirmière qu'à Tours, les choses se mobilisent autour de cette infirmière. Il y a un groupe Choisir local qui est créé, qui est une base militante déjà importante. Et du coup, entre la venue de Halimi au moment du procès, puis les manifs qui vont être organisés devant le tribunal, il y a un petit groupe quand même un peu solide de militants qui va se constituer en 1972 jusqu'à justement soit créé en 73 à Tours. L'ATLAC, qui est un dérivé des MLAC, mais à Tours, ils appelleront ça association, d'où le A de ATLAC. Et du coup, l'ATLAC pratiquera les premiers avortements clandestins également en janvier 73. Ce qui nous paraissait aussi important de rappeler, c'est que là, pour le coup, c'est les Grenoblois qui pratiquaient déjà des avortements clandestins, qui ont décidé, eux, de voir comment les autres pays pratiquaient et comment ça pouvait se faire autrement qu'actuellement. Et du coup, ils ont, à force de chercher, ils ont rencontré Harvey Carman, qui était un médecin qui pratiquait l'avortement par aspiration. Et du coup, peut-être, Odile, tu peux nous en parler un petit peu plus de ces pratiques-là et de comment ça se passait aussi avec les MLAC.
Oui, je vais peut-être revenir sur Harvey Carman. Il est psychologue clinicien et il a été dépêché au Bangladesh, sur la frontière Bangladesh-Inde, parce que il y avait des femmes qui se suicidaient en masse pour avoir été violées. C'est les viols de guerre, une fois de plus, hein, le chantage sur le corps des femmes. Et lui, il s'est rendu compte sur la situation que ces femmes ne pouvaient pas garder ces grossesses issues du viol et qu'au lieu de leur donner des neuroleptiques, il valait mieux les avorter. Et il a trouvé une méthode extrêmement pratique qui avait été inventée dans les années 1930, même avant, en Russie, par Bykov. C'est-à-dire une toute petite sonde stérile, c'est ça qui change tout. Le matériel est stérile, contrairement aux avortements clandestins. Et cette sonde est montée sur une légère aspiration. Bykov, c'était le matériel de Simpson anglais de 1848. Lui, il propose une simple seringue de 30 à 50 cm, à 50 cm cubes. Et donc, ça facilite. Ça révolutionne, en fait. Cette technique Carman va révolutionner la possibilité de faire des avortements en toute simplicité et sans anesthésie générale et sans souffrance pour les femmes. On verra pourquoi après. Je reviendrai sur les permanences. Tu peux... Ouais. Ouais. Okay.
Avant de parler des permanences, vraiment, en 73, il y a aussi un 331 médecin du groupe d'intervention santé, le GIS, qui, en soutien aux 343 femmes qui avaient déclaré leur avortement, déclare pratiquer des avortements pour créer un état de fait contre la loi, pour déclarer que ça se fait. C'est ce que Gisèle Halimi essayait de faire à travers ses procès, de dire ça se fait, et du coup, l'état de fait doit changer la loi. Et du coup, ce sera aussi un moment assez important et toute la médiatisation autour des 331 médecins et des 343 femmes, du coup, créera aussi dans l'opinion publique d'autres réactions et permettra sûrement à d'autres personnes de se mobiliser dans ces groupes militants. Mais il y a une date un peu, on en parlait tout à l'heure avec Odile, qui va marquer aussi, c'est à nouveau à Grenoble, toujours en 73, hein, l'année 73 est assez fortement... chargé, mais parce que la lutte s'intensifie. Du coup, il y a Annie Ferré-Martin, une médecin, qui a arrêté avec son mari et sa belle-sœur, et elle a inculpé d'avortements illégaux car elle pratique chez elle des avortements, en effet, clandestins. Et du coup, là, ça va créer une forte mobilisation partout en France. Il va y avoir plein d'actions qui vont se mettre en place. Il va y avoir le soutien de Choisir et de Gisèle Halimi. Il va y avoir des tentatives de diffuser des films sur l'avortement pour aussi commencer à parler avec les gens, à parler avec le grand public, à aller vraiment dans tous les coins de la France, dans tous les quartiers, pour permettre aux gens de parler, pour permettre aux femmes de se rencontrer et de parler de ça. Dans toute la France, ça va se mobiliser et du coup, l'inculpation pour complicité d'avortement va réussir à être levée et la docteure bénéficiera d'un non-lieu. Et là, on peut voir que c'est un grand tournant et notamment Gisèle Halimi pourra témoigner de ça en disant, elle va déclarer, attendez, je vous fais la petite citation parce que pas besoin de répéter ce qu'elle dit, vu qu'elle l'a très bien dit. À partir de maintenant, la loi est morte. Le pouvoir ne peut plus décider pour nous. Et pour elle, en fait, on ne pourra plus revenir en arrière. À partir du moment où il y a ce non-lieu, on ne va plus pouvoir revenir en arrière. Et je pense que ça, sûrement, ça doit donner de l'énergie. En tout cas, moi, si j'étais militante à l'époque, je me dis que ça doit me donner un peu de vent et me pousser à continuer ce que je fais. Et du coup, c'est là où les MLAC vont se créer. Et leur objectif sera de lutter pour une information sexuelle qui cesse de faire de la procréation le seul but de la sexualité, mais pour la liberté de la contraception, sans discrimination d'âge ni de moyens, pour la liberté de l'avortement, pour l'abrogation de la loi de 1901. Et là, de là vont se créer des savoirs pratiques autour des corps des femmes, de leur santé et de leur sexualité, parce que nous, ce qui nous semblait intéressant dans les GIS et les MLAC de notre regard de jeunes qui n'avons pas vécu ces années-là, c'est que la posture envers les femmes n'a rien à voir avec la posture médicale, c'est-à-dire qu'on va permettre aux femmes de s'approprier leur corps, de connaître leur corps et de comprendre ce qui se passe pour aussi pouvoir faire des choix. Et nous, on trouvait cette posture à travers ce groupe d'intervention santé et de l'EMLAC hyper intéressante. On trouve que c'est peut-être quelque chose qui a été perdu avec la lutte, mais voilà, on trouvait que ces pratiques-là, en tout cas, nous surprenaient par rapport à l'appropriation des corps et nous donnaient bien envie de continuer de faire ces pratiques collectives.
Oui, c'est très important, Tiffany, tu résumes bien la situation et surtout le contexte. Et le MLAC, le Mouvement pour la Liberté de l'Avortement et de la Contraception, va de fait être un cartel, en quelque sorte, de beaucoup d'organisations politiques, mais aussi d'un grand nombre de militants qui ne veulent plus reculer, et surtout ces jeunes étudiants en médecine pour la plupart, quelques médecins seulement, constituaient le groupe Information Santé. Et là, ils vont vouloir sortir de la clandestinité, parce que c'est très lourd, là. Le MLAC va donc prendre la relève avec, pour la première fois, des non-médicaux qui vont pratiquer des avortements, parce que, avec la méthode Carman, c'est quelque chose de simple dans la mesure où il est pratiqué dans une grande hygiène et du matériel stérile. Alors, les permanences du MLAC, c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire que l'ATLAC, l'association Tourangelle locale du MLAC, était extrêmement organisée et donc, en général, que ce soit à Paris ou alors dans le Berry où j'ai commencé, c'était toujours le même profil à peu près de ces permanences. On parlait, on expliquait aux femmes la situation en France, on expliquait la nécessité de se regrouper pour faire basculer cette loi de 1920. On parlait des inégalités sociales. Alors, le planning familial avait commencé déjà, avant le MLAC, de s'organiser avec des voitures pour emmener des femmes en Angleterre. C'était beaucoup moins cher qu'en Suisse. Et après, en Hollande. Ces voitures fonctionnaient parfois même entre deux régions. Et au MLAC, ça a été le même profil, puisqu'il y a un travail... On peut parler, par exemple, de Simone Yves, qui était... Simone Yves, c'est une grande femme, dont on oublie le nom, qui a été présidente du planning familial, mais et puis de Monique Antoine, qui était avocate aussi à Choisir, mais qui est devenue la présidente du MLAC. Et donc, ces permanences allaient définir quelles femmes ne pouvaient pas partir à l'étranger parce qu'elles n'avaient vraiment pas les moyens, parce qu'elles avaient 3 enfants ou 5, comme certaines que j'ai vues à la maison. Et donc, ce n'était pas possible de partir 2 jours, 3 jours. Donc, le MLAC prenait ces situations de personnes très démunies localement. Alors, qui dans un appartement privé, ou alors ça s'est fait dans le Berry, par exemple, c'était des infirmeries de lycée, ou alors dans un local de faculté. Et donc, c'était, on peut dire, une implication clandestine, mais à la connaissance de tous. Et là, ça va faire effectivement basculer ce rapport de force. Évidemment, je passe sur les tiraillements, parce que certaines personnes de Choisir ont voulu venir en MLAC, mais certaines, ainsi que certaines personnes du planning familial, je passe parce que globalement, il faut voir dans cette constitution de ce mouvement important mixte, dans ce cadre de mobilisation post-68. D'ailleurs, en 73, il y avait encore beaucoup de grèves. Je pense aux grosses grèves des usines d'automobiles qui représentaient les 30 Glorieuses et les lycéens. Je passe, j'arrête.
Merci. Donc on peut voir que toutes ces actions ont créé un rapport de force face à la loi. Et avant de vous parler de la loi, on va s'écouter une petite musique.
Alors on va vous passer cette fois une chanson assez forte de Anne Sylvestre qu'on écoutera assez régulièrement, je pense, au cours de ces émissions. Et c'est « Non, tu n'as pas de nom » qui est assez connu.
Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Oh non, tu n'es pas un être, tu le deviendrais peut-être si je te donnais asile, si c'était moins difficile, s'il me suffisait d'attendre, de voir mon ventre se tendre, si ce n'était pas un piège ou quel douteux sortilège. Non, non, tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Savent-ils que ça transforme l'esprit autant que la forme, qu'on te porte dans la tête, que jamais ça ne s'arrête. Tu ne seras pas mon centre. Que savent-ils de mon ventre? Pensent-ils qu'on en dispose quand je suis tant d'autres choses? Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Déjà, tu me mobilises, je sens que je m'amenuise, et d'instinct je te résiste, depuis si longtemps j'existe. Depuis si longtemps je t'aime, mais je te veux sans problème. Aujourd'hui je te refuse, qui sont-ils ceux qui m'accusent? Non. Non, tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense, non, non, tu n'as pas de nom.
Alors on reprend pour un peu la dernière partie de cette première émission sur l'avortement, donc c'est moi qui vais prendre la suite un peu, alors... Donc on en arrive dans la lutte, on en arrive à fin 1974, puisque la loi est présentée à l'Assemblée en novembre, le 26 novembre 1974. Donc en fait c'est face à la mobilisation qui vous a été vachement bien décrit jusque-là, en fait, que le gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing va décider de... donc il va missionner Simone Veil, nouvelle ministre de la Santé, de mettre en place une loi, et sachant que c'est intéressant de replacer le contexte, c'est-à-dire que lorsque Simone Veil accède au ministère de la Santé, son prédécesseur lui dit « Trouvez une solution législative à cette situation instable, réglez le problème de l'avortement, sinon vous arriverez un jour dans votre bureau et il y aura un avortement sauvage en cours ». Donc on comprend bien en fait le contexte dans lequel on est au moment des débats autour de cette loi. Donc, en fait, donc la loi sort donc en janvier 75 et en fait qu'est-ce qu'elle dit la loi donc qui sort enfin suite à des débats houleux donc c'est que en fait c'est une dépénalisation de l'avortement, c'est-à-dire que ce n'est pas un droit en fait, elle reste en fait c'est juste qu'on dit que les gens n'iront plus en prison s'ils font des avortements, mais c'est pas pour autant qu'elle est considérée comme un droit. Et du coup face à ça en fait donc la loi dit l'avortement est légalisé et dépénalisé dans le cadre d'une situation de détresse, donc si le délai de grossesse doit être inférieur à 10 semaines, donc les femmes ont le droit d'avorter jusqu'à 10 semaines et 12 semaines d'aménorrhée. L'intervention doit être réalisée par un médecin dans un établissement d'hospitalisation. La femme doit suivre 2 consultations médicales, donc avec des médecins, et 1 consultation psychosociale. Sa volonté doit être mise par écrit et on y ajoute la question de la clause de conscience. Donc la clause de conscience, c'est-à-dire que les médecins ou les personnels médicaux ont le droit de ne pas accepter de faire des avortements. Donc ils ne sont pas obligés, ils peuvent dire « je mets ma clause de conscience » et ne pas réaliser l'avortement. Donc en parallèle de, de l'IVG, donc l'interruption volontaire de grossesse, on légalise aussi, on dépénalise l'IMG qui correspond à l'avortement thérapeutique. Où là, ça peut être jusqu'au dernier jour de la grossesse. Dans le cas où il y a un péril grave pour la vie de la mère ou une malformation trop forte du fœtus qui est attestée par 2 médecins, avec pareil, donc réalisé en milieu hospitalier et toujours avec une clause de conscience. Donc 2 autres choses qui sont importantes à souligner sur la loi Veil, c'est que les mineurs, sachant que je pense que la minorité à cette époque est encore à 21 ans, ou en tout cas on n'en est pas loin, donc doivent demander une autorisation parentale obligatoirement à leurs parents. Et que les femmes qui n'ont pas de titre séjour, où il y a, en tout cas il y a des délais depuis lesquels les femmes étrangères ont le titre de séjour pour avoir droit à l'avortement. Et une dernière chose qui a vraiment été compliquée à cette époque-là, c'est que la loi de 75, elle est d'abord temporaire. C'est-à-dire que elle doit durer 5 ans et on verra au bout de 5 ans si on la maintient ou pas. Donc forcément, ça maintient un stress très fort sur les militantes qui se disent « mais en fait, on a gagné, mais peut-être que non, en fait ». Et elle sera finalement reconduite sans limite de temps au 31 décembre 1979. Alors, donc, ce qu'on peut dire sur cette loi, c'est que donc, elle est quand même établie dans un contexte qu'il ne faut pas oublier, c'est-à-dire que ça reste un grand succès parce que c'est la fin de la mortalité des femmes, c'est-à-dire que tout ce qu'on vous a décrit tout à l'heure avec toutes ces femmes qui meurent tout le temps, en fait, c'est quand même... Enfin, on arrive à ce que les femmes ne meurent plus des avortements clandestins. Et c'est une loi qui est portée à bout de bras par Simone Veil dans un contexte d'assemblée extrêmement machiste, raciste, et même elle va subir des menaces, elle va être, on va la traiter de nazie alors qu'elle a elle-même vécu les camps. Enfin, c'est vraiment un contexte très compliqué. Et c'est ce qui fait que, en fait, c'est une loi qui, comme je le disais tout à l'heure, n'est pas un droit à l'avortement, mais ça va sur la question de la santé publique, en fait. Et c'est ça qui va lui permettre de passer, et non pas sur le droit des femmes, car ce serait jamais passé dans ce contexte patriarcal de l'époque. Mais malgré ça, en fait, la loi qui est votée en 75, il reste de grosses déceptions pour les femmes qui ont lutté, parce qu'en fait, c'est pas vraiment totalement ce qu'elles avaient demandé. Donc je vais les passer un peu en revue, ces limites de la loi de 75. Donc c'est les conditions de culpabilisation des femmes qui sont vraiment maintenues, et moi j'ai été assez choquée, en fait, quand j'ai lu le... discours de présentation du projet de loi devant l'Assemblée nationale, donc dit par Simone Veil en 74. Donc je vais vous en extraire quelques phrases. C'est « l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours dans des situations sans issue. Il ne faut pas que la société paraisse l'encourager, l'avortement. Et s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour le contrôler et autant que possible en dissuader la femme. » Donc on voit à l'époque à quel point à ce moment-là, en fait, on maintient un chapeau de plomb sur la femme, l'avortement n'est pas libre, qui était la revendication libre et gratuit, les revendications des mouvements des MLAC. Il n'est pas libre, les femmes doivent faire 3 consultations pour être sûres qu'elles ont bien envie d'avorter. Enfin, on n'en est pas encore là, on va dire. Donc voilà, c'est première des limites. Une des deuxièmes limites, c'est que cette loi maintient les inégalités sociales, puisque jusqu'en 1982, l'avortement n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Et c'est 700 francs. Donc vous pourrez remonter dans l'émission et voir combien était le SMIC à l'époque. Bref, c'est encore une certaine somme que tout le monde ne peut pas se permettre de payer. Donc on reste dans cette idée que quand on est riche, c'est beaucoup plus facile de se faire avorter que quand on est pauvre. Il y a des femmes qui restent exclues de la loi, les femmes étrangères et les mineurs qui n'arrivent pas à obtenir l'autorisation parentale. Or, c'est dans l'époque des mœurs, enfin, à l'époque, les mœurs faisaient que c'était quand même très compliqué en tant que mineur d'aller demander une autorisation parentale. Donc, on maintient des femmes à l'extérieur du droit à l'avortement. Une autre limite, c'est, comme ça a été souligné bien par Tiffany et par Odile tout à l'heure, c'est qu'on va perdre, du fait que l'avortement passe à l'hôpital, on va perdre la maîtrise de leur corps par les femmes. C'est-à-dire que tout ce qui avait été appris sur l'auto-avortement, l'auto-accouchement, les techniques, les savoir-faire, tout ce qui avait permis aux femmes en fait, de retrouver cette maîtrise de cet aspect-là de leur sexualité et tout ça, est perdu parce que passe dans un cadre médical très régularisé, etc. On perd aussi ce qui a été décrit par Odile sur l'accompagnement collectif des femmes vers les autres, la mise en place de groupes de femmes, donc on perd aussi cette solidarité, et qui va s'empirer au fur et à mesure du temps avec l'atomisation des femmes qui vont de moins en moins avoir d'espace pour discuter entre elles. Et enfin, on perd, avec le passage à l'hôpital, la dépolitisation de la lutte sur l'avortement et tout ce qu'il y avait autour de l'auto-organisation, autour de cette question du maîtrise du corps des femmes. Et quelque chose que je voulais rajouter, qui n'est pas directement lié sur le moment à la loi de 75, mais qu'on voit largement aujourd'hui, et moi je suis le produit direct de ça, c'est la couverture médiatique par la suite qui en a été fait raconte quand même pas mal le combat d'une femme mythique, Simone Veil, qui a obtenu la loi pour l'avortement. Et on oublie quand même souvent le combat des milliers de femmes, en fait, et des grèves, des manifestations, etc., qui avaient lieu depuis 1968, et on oublie un peu trop, en tout cas dans le discours qui est tenu là-dessus, que c'est une lutte collective de la rue et qui est passée par l'auto-organisation. Et mixte, nous dit Odile depuis son micro. Donc voilà, donc ça c'était un peu sur les limites de la loi de 75 qui pour moi était importante à dire. Ensuite, donc on voulait terminer. Alors, d'accord, on me dit qu'il me reste un peu de temps. Donc, on voulait terminer en parlant de la mise en application de la loi Veil une fois qu'elle a été votée, en fait. Et c'est bien d'avoir une loi, c'est bien qu'elle soit écrite dans la loi, mais c'est pas pour autant, malheureusement, que les femmes avaient facilement accès à l'IVG. Et donc, ce qui s'est passé, c'est... j'ai déjà parlé d'une partie de ces limites et de ce qui s'est... ont une répercussion directe sur ce qui s'est passé après, c'est-à-dire les exclus de la loi Veil, donc les étrangères et les jeunes, font que certains MLAC vont continuer à réaliser des avortements pour ces exclus, mais sachant que ça reste passible de prison, hein, puisque c'est hors du cadre de la loi, et on se retrouve avec le procès du MLAC d'Aix-en-Provence, donc qui était un MLAC extrêmement militant, en fait, probablement un des plus militants de France, et pour lequel donc 6 femmes du MLAC ont réalisé un avortement sur une mineure qui n'avait pas d'autorisation parentale, et le père a poursuivi par la suite ces femmes du MLAC. Et donc en 1976, il y a une très grosse mobilisation autour du procès qui a fait que le jugement a été relativement modéré, avec 5 des 6 femmes condamnées à 2 mois de prison avec sursis. Donc il y a été une victoire un peu sur la question de ces avortements toujours et encore. Donc dans les difficultés d'application, il y avait aussi que l'ouverture des centres d'orthogénie dans les hôpitaux, ça a été extrêmement compliqué parce que donc non seulement il a fallu équiper tout le monde, bien sûr, ça c'était une des limites matérielles et économiques, mais surtout il y avait une énorme réticence de la part idéologique de la part des médecins et des chefs de services gynéco dans les hôpitaux qui ont fait qu'ils ont bloqué l'ouverture des centres et que dans le cas du CHU de Rennes, par exemple, c'est les chefs de service en neurologie, en néphrologie qui ont accepté de se mettre à faire des avortements et qui ont permis à des généralistes de l'extérieur de pouvoir venir. Et donc cette réticence globale des médecins, par le biais de la clause de conscience, elle a fait qu'il y a eu une très très grande difficulté pour les femmes d'accéder à l'avortement, avec certaines limites qui ont été levées pas plus tard, comme par exemple le fait que la vacation était aussi mal rémunérée et que donc aucun des médecins n'était vraiment, s'il n'était pas militant, il n'avait pas envie d'y aller. Et c'est ce qui a fait que seuls les médecins militants ont vraiment réalisé des avortements à cette période-là. Donc voilà, tout ça c'était pour dire qu'il y avait une très grande difficulté dans la mise en application de la loi Veil dès 75. Odile, tu veux nous
préciser ? Oui, Audrey, tu parles de Rennes. D'une manière très courte, je voudrais quand même parler de Tours, parce que autant l'ATLAC avait pris ses responsabilités et effectué un nombre important d'avortements, au lendemain de la loi Veil, il y a eu une opposition drastique du patron de service de maternité et de gynécologie, et il n'a pas ouvert de CIVG. Il y a eu une commission qui s'appelait commission de décision. Ils ont eu de janvier en mars 77 demandes de femmes et ils ont fait que 14 avortements qui étaient principalement presque des IMG, quoi, au niveau des indications. Et ce sont à Tours, à partir du mois de juin, comme il y a eu des assises de sages-femmes et Simone Veil est venue à Tours et il a dit qu'en est-il de l'application de la loi. Et c'est là où le directeur, en quelque sorte, de l'hôpital s'est fait taper sur les doigts parce qu'il n'y avait pas de CIVG. Et donc, le CIVG a été ouvert ses portes avec un monsieur Veil, W-E-I-L, qui n'était pas compétent, il l'a dit lui-même, mais il en a pris, c'était bien sûr un médecin, il en a pris la responsabilité administrative, et un radiologue, Roger Florac, qui avait une expérience de gynécologie, qui a dit, ben moi je vais m'occuper de la responsabilité médicale. Et c'est ainsi que ce CIVG a été ouvert début août, un peu plus tard avec les vacances, avec 8 personnes humanistes, c'est-à-dire aucun gynécologue obstétricien, puisqu'ils avaient trop peur d'affronter le pouvoir médical en place. Et par la suite, ce sont un an et demi après, ce sont les militants de l'ATLAC, pour quelques-uns, qui ont remplacé cette première génération d'humanistes, dont je peux citer d'ailleurs Marie-Thérèse Rimbaud, qui était au planning familial depuis des décennies.
Merci Odile de remettre le contexte de notre ville. Donc je vais terminer cette émission et cette première partie sur l'avortement, notre première partie sur l'avortement, avec ce qui s'est passé. Donc il y a depuis, en fait, au niveau législatif en tout cas, donc il y a une partie des limites de la loi Veil qui ont été levées, mais depuis pas si longtemps. Hein. Donc, comme j'en ai parlé tout à l'heure, en 1982, remboursement de l'IVG par l'assurance maladie. En 1990, arrivée autorisation de l'interruption volontaire de grossesse médicamenteuse, donc avec une molécule, on y reviendra un peu plus dans la deuxième émission, en milieu hospitalier, ensuite par les médecins généralistes bien plus tard, et en 2016 par les sages-femmes et les centres de planning familiaux. Démocratisation un peu de l'IVG et sortie de l'hôpital, en tout cas. En 1993, création du délit d'entrave à l'IVG, c'est-à-dire qu'on a enfin plus le droit de mentir en fait sur les raisons de l'IVG, etc. Loi de 2001 assez fondatrice puisqu'elle augmente le délai de 10 à 12 semaines pour l'autorisation de l'IVG et le retrait de l'autorisation parentale pour les mineurs enfin. Et enfin, en 2013, donc là où on voit que c'était vraiment un souci, donc augmentation du tarif de l'acte médical pour augmenter le nombre de praticiens, parce qu'on voit déjà une diminution du nombre de praticiens de l'IVG partout en France. Et enfin, en 2014, suppression de la condition de détresse avérée que la loi exigeait, c'est-à-dire qu'enfin on sort de cette dépénalisation et on passe plus sur un droit des femmes à disposer de leur propre corps et à faire leur propre choix. Donc on voit qu'il y a eu des améliorations un peu continues de la loi Veil, mais qui ne doivent pas cacher qu'aujourd'hui l'accès à l'IVG est toujours aussi difficile. Il y a encore des inégalités sociales et surtout des réductions drastiques des moyens de l'État qui font qu'on ferme des centres à IVG et que du coup l'accès à l'IVG reste compliqué. Mais ça, ce sera pour le deuxième épisode. Voilà. Alors on va terminer là. Donc je vais remercier Fred et Adèle à la technique sans qui cette émission n'aurait pas eu lieu. Odile, merci beaucoup d'être venue témoigner sur Tours, sur ton expérience. Et merci à Tiffany pour la préparation de cette émission avec moi. Et du coup, si tu veux retenir un petit mot.
Je ne savais pas si c'était dans le deuxième épisode, parce que c'est passé vite sur le délit d'entrave. Le délit d'entrave, il a été rédigé par Véronique Niertz en opposition aux commandos qui ont, dès les années 90, agressé les CIVG. Mais c'est votre deuxième épisode.
On pourra y revenir plus, il faudra.
Moi, je voulais juste conclure personnellement en disant qu'une loi est toujours un consensus social et qu'il ne faut pas tenir une loi pour définitive. C'est ainsi que je suis ravie d'avoir travaillé avec vous, parce que c'est une génération, alors que pour beaucoup de jeunes, c'est un acquis, mais c'est toujours fragile, surtout dans une société qui reste patriarcale.
Et bien, sur cette belle phrase de conclusion avec laquelle on est complètement d'accord, on va vous passer un petit morceau qui n'ira peut-être pas jusqu'au bout, mais qui reste super chouette.
Non, je ne regrette pas, c'est le titre par la compagnie CTA, et qui nous parle justement d'un des multiples procès qu'il y a pu y avoir autour des questions d'avortement.
Et nous voici en 1970, au moment où Michèle Chevalier est arrêtée parce qu'elle a aidé sa fille, âgée de 16 ans, qui a été violée, à avorter. Dans le panier à salade, entouré de mes filles, qui j'aurais bien épargné ça. J'ai les yeux dans le vague, le cœur dans l'estomac. Qu'est-ce que je fais là, bon Dieu, qu'est-ce que je fais là? J'ai pas l'argent pour envoyer ma fille en Suisse, dans une clinique au mur blanc aseptisé. J'avais juste ce qu'il fallait pour l'aiguille à tricoter. Pour l'aiguille à tricoter, n'importe quelle mère l'aurait fait. N'importe quelle mère l'aurait fait. Toujours les mêmes dans les prisons et la justice. Toujours les pauvres dans les prisons, les riches en Suisse. Toujours les mêmes dans les prisons et la justice. Toujours les pauvres dans les prisons, les riches en Suisse. Elle a du culot, mon avocate. Elle dit c'est pas toi qui es coupable, c'est la loi qui est coupable. C'est pas toi qui es criminel, c'est la loi qui est criminel. Il faut empêcher cette femme en faire le procès, mais pour ça faut prendre le risque. Toi tu fais comme toutes les autres et tu dis je leur ferai pas, c'est pas bien, je juge, je leur ferai pas. 3 mois de prison, 3 mois. Mais si tu dis que tu le referais, que c'est la loi qui peut changer, 3 ans de prison, 3 ans. Ou l'acquittement,
c'est quitte ou double.
Toujours les mêmes dans les prisons et la justice. Toujours les pauvres dans les prisons, les riches en Suisse. Toujours les mêmes dans les prisons et la justice. Toujours les pauvres dans les prisons, les riches. De ma fille, de lui avoir permis de ne pas être mère à 16 ans, de lui avoir permis de ne pas porter le fruit d'un viol. Non, je ne regrette pas. Ce que je regrette, c'est de ne pas être riche, de ne pas avoir pu l'envoyer en Suisse, dans une clinique, en mur blanc aseptisé, d'avoir fait ça sur la table de la cuisine, avec un peu de savon. Un mari qui à chaque fois vous dit bah débrouille-toi toute seule ma fille, débrouille-toi 14 fois. Une faiseuse d'ange, pas cher, elle croyait qu'elle savait faire. Et j'ai pas osé appeler les urgences, j'ai pas osé, j'ai failli la perdre. Voilà ce que je regrette, j'ai failli la perdre, pas de l'avoir aidée à avorter. Jeter. J'en tremble encore, mais je l'ai fait. Non, monsieur le juge, je ne regrette pas, je le referai. Elles sont toutes avec moi sur le parvis du palais de justice, derrière leur radio, suspendues à l'instant, toutes concernées. La suite, la suite, la suite.
faiseuse d'anges, moi l'ami qui nous a présenté. Le silence est de plomb, le jury est troublé. Le premier témoin s'avance et c'est le défilé. Merci aux 117 témoins qui sont présentés à la barre. Artistes, journalistes, universitaires, scientifiques. Merci aux 343 nonymes et anonymes qui ont déclaré qu'elles aussi avaient avorté. Merci à toi, Paul Miès, médecin très très catholique. T'as brisé ta carrière pour parler. Il y a la loi des hommes, il y a la loi de Dieu. Mais il y a des actes que l'on décide dans l'isoloir de notre conscience. J'ai vu trop de femmes mourir suite à des opérations clandestines ayant mal tourné. Trop d'enfants abandonnés. Alors oui, je pratique l'avortement. Oui, je le fais. Vas-y, Gisèle, on est tout avec toi. Envoie-le dans les roses, le procureur qui fait son devoir. Envoie-le dans les roses, mon nom qui sont réquisitoires. Pas de prison de 20 années, 3 ans. Quatre hommes pour juger quatre femmes. N'est-ce pas déjà là l'injustice? Quatre femmes devant quatre hommes pour parler d'utérus, de grossesse, d'avortement, pour décider si elles ont le droit de maîtriser leur corps, pour décider si elles ont le droit de disposer de leur sort, pour décider si elles ont le droit de mettre au monde par amour et non par erreur, échec, viol ou accident. La contraception est interdite et vous osez nous condamner? Abstinence, famille nombreuse, oh là le choix que vous nous laissez. Donnez-nous la pilule, laissez-nous avorter. Donnez-nous la pilule avant de nous juger. Que chaque naissance soit un bonheur. 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 Vas-y Gisèle, on est tout avec toi. Envoie-le dans les roses, le procureur qui fait son toit. Envoie-le dans les roses, qu'on oublie son réquisitoire. Trois de prison, ne pas en donner 3 ans.
Madame Michèle Chevalier, ici c'est un tribunal et le rôle du tribunal est de faire appliquer la loi. Ainsi, si vous voulez changer la loi, nous vous conseillons de vous tourner vers vos politiques, car ce sont eux qui font et qui défont les lois. Quant à nous, nous sommes obligés de vous reconnaître coupable d'avortement illégal et pour cela, nous vous condamnons non pas à 3 ans de prison, mais à 500 francs d'amende avec sursis. Justice est rendue.
Au procès de Bobigny et à la plaidoirie de Gisèle Halimi, la loi n'a plus jamais été appliquée.